Père Marie-Dominique Philippe, théologie biblique à Saint-Joseph, 21 octobre 1983.
Comprenez bien le sens un peu de ce cours, qui n'est pas tout à fait un cours, puisque c'est de l'ordre plus spirituel. C'est d'essayer, à travers toute l'Écriture, de saisir la manière dont l'Esprit Saint a conduit le peuple d'Israël et a conduit le début de l'Église, puisque c'est de fait de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça nous donne beaucoup de pain sur la planche, vous voyez. Mais je crois que c'est bon. C'est bon de faire cela pour essayer de nous donner à nous-mêmes, puisque ça n'existe pas, une théologie biblique. C'est pas commun, du reste, de voir exactement comment se fait une théologie biblique. Parce qu'on a d'une part, aujourd'hui, des exégètes, et d'autre part, on a des théologiens spéculatifs, qui se disent spéculatifs et qui ne sont plus beaucoup, et qui, au fond, font une théologie qui n'est plus celle de saint Thomas, qui est une théologie à partir de Hegel, à partir de la philosophie contemporaine. Alors, ils ne voient plus assez le point de vue de la connaissance analogique, ce qui est tellement important pour nous, de saisir ce que c'est qu'une connaissance, une pensée analogique. Parce que si on saisit ce que c'est que l'analogie, on comprend la diversité en premier lieu, et on essaie de découvrir l'unité dans la diversité. Vous voyez, il y a un problème sur lequel il faut revenir tout le temps, c'est d'essayer de comprendre dans l'Église d'aujourd'hui, ce que représente la pensée théologique. C'est un problème que je me suis posé parce qu'à Fribourg, on m'a demandé un beau jour de faire, j'enseignais la philo, mais de faire les cours d'ascétique et mystique, puisque ça fait partie de la ratio studiorum. Alors quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est qu'un cours d'ascétique et mystique, ils ne savent pas. Ils disent oui, on voit des problèmes. Alors, au fond, on est devant, et certains le disent ouvertement, il y a aujourd'hui une détresse telle dans la pensée théologique qu'on ne voit plus du tout où l'on va. Chacun tire de son côté. Ceux qui suivent des cours dans une université, même à Fribourg, savent très bien que ça va dans tous les sens. Donc, il n'y a plus de formation. Parce qu'on doit se former à la philosophie et à la théologie. Or, il n'y a plus de formation, c'est plus d'unité. Et c'est, je crois, le drame d'aujourd'hui. Alors, il faut essayer de réfléchir là-dessus. On doit y réfléchir. Parce qu'on est philosophe et on est théologien. Je vous ai dit l'autre jour, hein, je l'ai dit à Raymond, si les deux sources de la théologie, il ne faut jamais l'oublier, c'est la philosophie et la mystique. Et puis, si on est philosophe et qu'on vit une vie chrétienne, on est théologien. Alors le père Marie-Alain m'a dit à ce moment-là, alors très bien, plus besoin de professeur de théologie. Parce qu'il suffit de la philosophie et puis de la théologie mystique. Alors je lui ai répondu, non, il y a encore une théologie, parce que de fait, il faut comprendre qu'il y a une mise en ordre de cette intelligence philosophique mise au service de la parole de Dieu, mise au service de la foi. Et donc, il y a un ordre qu'il faut découvrir. Vous comprenez que si l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, c'est-à-dire au niveau philosophique, n'a pas une démarche uniforme, qu'elle a une démarche variée, C'est-à-dire que la philosophie est à la fois pratique et spéculative. Et que dans la philosophie pratique, on a divers aspects. L'éthique, la philosophie de l'activité artistique, la philosophie de la communauté. De même, au niveau spéculatif, songez au petit tableau que je vous ai donné, hein, le triangle de base et le triangle en hauteur. Puisque la foi ne supprime pas la structure de notre intelligence, nécessairement, la théologie ne sera pas une. Ou plus exactement, elle sera une à travers une diversité. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Le contact que nous avons avec le réel est multiple. Vous verrez ça en philosophie progressivement, de mieux en mieux. Ceux qui ont déjà fait de la philosophie comprennent. Les autres, c'est plus difficile. Mais on le verra en philosophie, parce que c'est très important. Comme le contact avec le réel est divers, nécessairement, notre théologie, qui est à base de la foi, puisque Dieu n'invente pas un nouveau langage, nécessairement, notre théologie sera multiple. Il y aura donc une théologie scientifique à la manière de saint Thomas, il y aura une théologie biblique qui sera de suivre l'ensemble de la révélation. Les exégètes modernes se sont trop particularisés et ne voient plus du tout l'unité, à part quelques grands exégètes comme le père Feuillet ou le père Spic, mais surtout le père Feuillet. Ils essaient d'avoir une grande vision. Le père Barthélemy aussi essaie d'avoir une grande vision, à sa manière. Mais tous, ils sont liés à leur méthode exégétique. Et tous, ils disent, ah, on ne peut pas aller plus loin. Alors on a envie de leur dire, mais écoutez, hein, votre méthode exégétique, elle est limitée. La philosophie doit vous aider à aller plus loin. Or, comme ordinairement, ils n'ont plus fait de philosophie et ils ont fait souvent une philosophie très, très faible, ils ne comprennent pas très bien ce que c'est que la philosophie. Ne comprenant pas ce que c'est que la philosophie, ils restent avec leur méthode exégétique. Et ils ne dépassent pas leur méthode exégétique. Ils n'arrivent pas à saisir que la théologie biblique, c'est la théologie qui nous montre comment progressivement Dieu éduque le cœur de l'homme. Comment progressivement Dieu fait de nous des enfants de Dieu. Il y a une progression. Dieu a voulu s'insérer dans l'histoire. Dieu aurait pu très bien faire autrement. C'est bien évident. Dieu aurait pu très bien faire autrement. Il aurait pu très bien, pour chacun d'entre nous, nous révéler d'une façon personnelle et individuelle tout son mystère. Alors à ce moment-là, vous voyez, on n'aurait pas besoin de théologie. On n'aurait plus qu'à vivre immédiatement de Dieu et puis on ne le communique pas aux voisins parce que ça reste quelque chose de tout à fait personnel. Dieu a voulu, de fait, assumer la communauté humaine. Et pas seulement les individus, mais assumer la communauté humaine. Or, la communauté humaine vit dans le temps et la communauté humaine vit à un niveau familial et politique. Et c'est pour ça que Dieu a voulu assumer une famille. Dieu a voulu assumer un peuple pour arriver à la révélation plénière qui se fait dans le Christ. Alors, étudier ce devenir de la révélation, c'est ce que je crois la théologie biblique. Alors, vous voyez, je vais faire ce petit parallèle, vous allez essayer de comprendre, parce que c'est un petit parallèle que je crois intéressant à réfléchir. C'est beau au début de l'année hein, de donner des vastes plans sur lesquels on regarde de temps en temps pour voir où on en est et qu'est-ce que ça veut dire. Bon, la réalité, je vous ai dit, la philosophie regarde l'homme. L'homme, j'ai l'expérience de l'homme de multiples manières. J'ai l'expérience de l'homme en regardant le devenir de l'homme. Donc, ce qui est lu, je le reprends dans un autre ordre, hein, pas l'ordre que je vous ai donné, ça importe peu, mais c'est la même réalité.
lié à l'univers. J'ai l'expérience de l'âme travaillant ce qui est nu, ce qui se veut, le vivant. J'ai l'expérience de l'âme en comprenant qu'il est, il existe, son maître. J'ai l'expérience de l'âme en voyant son opération d'amour, sa capacité de transformer l'univers. Adjurer, patrimoine. Et puis, il vit en communauté. Ceci, c'est un peu l'expérience des deux, la coopération. Voilà mon expérience, mon toucher à l'homme, de fait, il a ses cinq dimensions, ou ses six dimensions, si vous prenez la coopération. Alors, le théologien part de la parole de Dieu. Qui me révèle Dieu. La foi regarde immédiatement Dieu qui se révèle à moi. Deus révélance. C'est l'objet formel de la foi. C'est Dieu qui se révèle à moi, et qui se révèle à moi à travers la parole. Puisque la foi ne détruit rien de ma structure profonde de mon intelligence, je vais retrouver, et ça c'est assez étonnant, je vais retrouver au niveau de ma réflexion théologique, la foi est unique, hein, mais au niveau de ma réflexion théologique, puisque ma réflexion théologique, c'est quelque chose de mixte. C'est mon intelligence, ma philosophie, qui est multiple. Mon intelligence est unique, mais ma théologie, mais ma philosophie est plusieurs. Il n'y a pas qu'une seule partie de la philosophie, vous voyez, c'est la différence entre une philosophie analogique qui saisit la réalité sous des points différents, elle a une diversité et une unité, et une philosophie dialectique. Une philosophie dialectique, elle est uniforme, c'est pour ça qu'elle séduit tellement. Tandis que celle-ci, elle est diverse, elle est une. Alors, puisque la foi ne détruit rien de mon intelligence, qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver des choses analogues, hein, analogues, comprenez, diverses et cependant semblables. Alors, je vous mets en parallèle, tout de suite, hein, sans chercher, en donnant tout de suite la solution. En donnant tout de suite la solution, en croyant que j'ai cherché. Hein, vous croyez que j'ai mis beaucoup de temps avant de découvrir ça. Et, mais je, parce que c'est un problème qui me tracasse. Je ne peux pas accepter que la théologie aille dans tous les sens. On n'a pas le droit. Si on est responsable de la théologie dans la mesure où on l'enseigne, eh bien, on est responsable, parce qu'on doit la communiquer. Donc, on doit savoir comment il y a une unité profonde de la théologie. Saint Thomas nous dit que la doctrine sacra a une unité, parce que la foi a une unité. Donc, il faut retrouver dans la diversité l'unité. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Théologie biblique. La théologie biblique est l'analogue de la théologie du devenir, de ce qui est mu, le devenir. La théologie biblique va assumer l'histoire. Toute l'histoire du peuple d'Israël. Tout ce devenir progressif. L'analogue à la philosophie première, on dit bien, ici, philosophie de la nature, philosophie du vivant, philosophie première, et puis ça, philosophie humaine. L'analogue à la philosophie première, c'est la théologie scientifique de Saint Thomas.
Ça, c'est très net. S'il restait fou, ça, c'est vrai. C'est déjà quelque chose.
Parce qu'on a l'axe. Oui. Là, on voit très bien. Et c'est intéressant, ça, parce que ça vous montre que celui qui n'est pas entré dans la théologie scientifique de saint Thomas ne peut rien comprendre à ce que je vous dis ici. Et c'est pour ça que l'Église maintient tellement saint Thomas. Il y a des raisons, vous comprenez. C'est pour maintenir l'unité de la théologie. Si je quitte Saint-Thomas, je pars dans tous les sens. C'est pour ça que je ne peux pas établir la théologie biblique sans la théologie scientifique. Or, les exégètes voudraient par eux-mêmes établir une théologie biblique. Ils ne peuvent pas. Impossible. Parce qu'ils oublient l'axe. L'axe, c'est la théologie scientifique. Alors, l'analogue de la théologie du vivant. Théologie de l'Église. Il y a une théologie de l'Église. C'est vrai, ça. La théologie de l'Église, c'est quelque chose de particulier. C'est le développement de l'Église. Vous voyez, il y a avant le Christ, après le Christ. Il y a la grande montée vers le Christ, et puis après. Et les deux mouvements vont tout à fait autrement. Avant le Christ, donc, l'ancienne alliance monte jusqu'au Christ, jusqu'à la croix. La croix est le sommet. C'est vrai ? Tout conduit à la croix. Tout est ordonné à la croix. Profondément. Et à partir de la croix, on a l'Église qui naît. L'Église, elle n'a pas ce sens-là, ce que voudrait le Père Théliard, mais elle a ce sens-là. L'Église est ordonnée au Christ. Parce que l'Église, de fait, elle ne va pas ajouter quelque chose de plus que le Christ. Le Christ est la tête. L'Église apporte quelque chose parce que l'Église assume l'humanité qui se développe. L'humanité qui se développe. L'Église doit donc toujours, mais au fond, mettre, vous voyez, continuer la flèche de l'ancienne alliance, ce ne serait pas juste. Continuer la flèche de la première alliance en disant la seconde alliance, c'est dans le même sens, alors ça irait vers quoi? Oui, on peut dire que ça va d'une certaine manière jusqu'à la Jérusalem céleste. Mais la Jérusalem céleste, c'est le Christ présent et pleinement présent. Le Christ est déjà glorifié. Et donc, si le Christ est déjà glorifié, l'Église ne fait que expliciter. Mais l'Église ne peut pas être quelque chose qui va dépasser le Christ. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui va plus loin. Alors, vous voyez, l'Église, c'est donc essayer de comprendre le grand mystère de la tradition. C'est le vivant, la durée du vivant. C'est la durée du vivant, ce vivant qui garde la parole. Puis il y a la théologie scientifique et puis il y a la théologie mystique. La théologie mystique est l'analogue de la philosophie humaine. Et dans la philosophie humaine, vous avez les trois. L'éthique et la philosophie du Thatcher. Et ça, c'est la théologie mystique. Alors, je crois que ça nous permet de comprendre que le mystère de la parole de Dieu, il a toutes ses dimensions. Vous allez tout de suite voir. Le mystère de la parole de Dieu implique une histoire. Dieu parle non seulement en se servant des mots, mais Dieu parle en se servant des hommes. Dieu nous parle à travers Abraham. Dieu nous parle à travers Isaac. Dieu nous parle à travers Jacob. Donc il se sert des hommes. La parole de Dieu est liée à l'homme. La parole de Dieu implique un enseignement. La théologie scientifique étudie la doctrine. L'enseignement. La parole de Dieu, elle est vivante. Et elle doit être gardée dans la bonne terre. Et la bonne terre, c'est l'Église. C'est le cœur des saints qui garde la parole de Dieu. Il faut comprendre comment la parole de Dieu, gardée dans le cœur des saints, va se développer. Il y a un développement à l'intérieur même de l'Église. Et la parole de Dieu va impliquer un don personnel. Le Christ, c'est la parole véritable et il nous est donné. Donc, la théologie mystique, c'est la théologie du don. C'est la théologie de l'amour. La parole de Dieu inspire l'amour.
La parole de Dieu éveille l'amour. Donc, ceci, c'est pour essayer de comprendre comment vos études philosophiques vous permettront de saisir toute la structure de la théologie. L'expérience que nous avons de l'homme, l'expérience par la foi et dans la foi que nous avons de Dieu, par le mystère de la parole de Dieu. Et comment la parole de Dieu a ses diverses dimensions. Ça, il faut y réfléchir longuement, parce que ça fait partie de ces choses que nous devons essayer petit à petit de comprendre dans la diversité de l'unité. Et vous voyez bien que c'est la théologie scientifique qui me permet de structurer tout le reste, exactement comme la métaphysique permet de structurer toute la philosophie. Et si je supprime la métaphysique, il n'y a plus de structure au point de vue philosophique. Si je supprime la théologie scientifique, il n'y a plus de structure de la théologie. Alors à ce moment-là, on tombera dans les descriptions. On aura théologie biblique, théologie de l'Église. On ne saura plus très bien. Et c'est vrai, on ne sait plus très bien. Les théologiens ne savent plus parce qu'ils ont perdu la théologie, la philosophie première, la métaphysique. Et c'est pour ça que l'Église veut à tout prix maintenir la théologie scientifique de saint Thomas et la métaphysique. Pour maintenir l'unité dans la théologie. C'est important à réfléchir là-dessus. Bon, alors, c'est dans cette perspective que nous avions commencé l'année dernière et que nous allons continuer maintenant. On va lentement, parce qu'on a tout le temps devant soi, alors on n'a pas besoin d'aller trop vite, d'étudier la Genèse. La Genèse est un livre merveilleux, c'est un livre fondamental. Alors, je vous avais dit, les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est comme le prologue de saint Jean. C'est toujours le point de départ et le terme. Hein. Et les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est comme le prologue de saint Jean. Et il y a beaucoup d'analogies entre les deux. Donc, c'est quelque chose de fondamental. On peut dire que le prologue les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est la crypte de la révélation. On aime de regarder les cryptes. De regarder toutes ces églises souterraines, de regarder les choses tout à fait fondamentales et premières. Et c'est vrai que les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. C'est l'Esprit Saint qui se sert des traditions religieuses et des traditions tout à fait primitives et qui s'en sert en les purifiant. Il y a quelque chose d'historique, mais ce n'est pas de l'histoire. L'Église nous a demandé de considérer que les 11 premiers chapitres de la Genèse, ce n'est pas de l'histoire, mais c'est des faits historiques. Mais c'est donné dans une méthode symbolique et mythique. Ce sont des mythes divins. Non seulement religieux, mais divins. Alors, je veux bien qu'on dise mythe divin, c'est-à-dire un langage symbolique où Dieu nous montre qu'est-ce que c'est que la création de l'homme et de la femme, qu'est-ce que c'est que le péché, qu'est-ce qu'il y a au plus intime du cœur de l'homme, une nostalgie constante, constante, à écraser l'autre, conséquence du péché. Puisque le 11e chapitre de la Genèse, vous savez, ça ne se termine pas d'une façon très drôle, hein. La tour de Babel, c'est pas très drôle. L'humanité qui prétend s'unifier et qui veut s'unifier à un niveau économique. Nous sommes dans le mystère de la tour de Babel. Ça, je crois tout à fait. Tout à fait le mystère de la tour de Babel. L'homme ne comprend plus l'homme. Alors, les 11 premiers chapitres de la Genèse, je crois qu'on peut dire, vous voyez, puisque ce n'est pas historique. C'est d'une façon plus actuelle que tout le reste. On pourrait dire que les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est comme la petite maquette que Dieu nous donne sur son gouvernement sur l'univers. Une merveilleuse maquette. Dieu qui nous montre l'humanité. Et l'humanité, elle est ponctuée par les 11 premiers chapitres de la Genèse. La création, chassée du paradis terrestre. C'est pas drôle. C'est actuel. Chassé du paradis terrestre. Et on a toujours envie d'y revenir. Et c'est pour ça qu'il y a un ange qui empêche de retourner au paradis terrestre. Rien n'est négligeable dans l'écriture. Tout a un sens. On ne le comprend pas tout de suite, mais on le comprend progressivement. Alors il y a le chérubin qui empêche de retourner au paradis terrestre. Si un chérubin est sorti du paradis terrestre, ça prouve que les hommes ont envie d'y retourner. Et nous avons tous en nous une envie folle de retourner au paradis terrestre. Et c'est ça qui nous est montré. Puis alors ensuite, le péché de Caïn. Le frère aîné qui tue le Benjamin, Abel, qui montre la lutte fondamentale qui existe dans l'humanité. Toujours l'aîné qui ne peut pas supporter que le Benjamin passe devant. Et ceci, ça donne très grande clarté sur le mystère des anges et des hommes. Puisque les anges sont nos aînés et que nous sommes nous les Benjamins. Et certains anges n'ont pas accepté que les petits cadets, que les petits Benjamins passent devant. Alors on voit bien cela, et c'est à l'égard d'un sacrifice. C'est à l'intérieur d'un geste liturgique. La lutte, la première lutte de l'humanité a lieu dans un geste liturgique. C'est pas étonnant qu'au niveau de la liturgie, on se divise. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est extraordinaire. C'est extrêmement intéressant de voir ça. Alors, il faut faire attention, hein, parce qu'il ne s'agit pas de se diviser. Il s'agit au contraire de s'unifier. Mais c'est très vrai que c'est montré. Caïn et Abel font les mêmes gestes, extérieurement. Mais l'un est aimé de Dieu et l'autre pas. Alors, Caïn ne supporte pas qu'Abel soit aimé. Second moment, c'est lorsqu'il s'agit, donc premièrement chassé du paradis terrestre, Caïn, puis le déluge, l'iniquité généralisée. Et Noé représente comme une reprise radicale de tout, puisque le déluge détruit tout. Mais ce n'est pas une reprise radicale de tout, puisque de fait, il y a une réserve dans l'arche. L'alliance avec Noé, c'est l'alliance avec l'arche. Et tout va être repris à travers Noé. Noé, préfiguration du Christ. Une recréation. Une reprise radicale de tout. Les hommes ne comprennent pas et veulent se sauver par eux-mêmes. Et nous sommes en présence de cette grande tentation du monde d'aujourd'hui. Les hommes veulent se sauver par eux-mêmes. Et les hommes voulant se sauver par eux-mêmes, alors c'est la construction de la tour de Babel. C'est les hommes qui veulent se libérer eux-mêmes. C'est le grand thème de la théologie de la libération qui nous est montré là. C'est l'orgueil collectif de l'humanité, où les hommes n'ont plus et ne veulent plus atteindre. Alors, c'est très significatif, vous voyez, comme ponctuation du mystère de l'humanité. C'est très beau. Les grands moments sont ponctués par les grandes fautes. Avec le chapitre 12, je n'insiste pas plus, hein, avec le chapitre 12, nous entrons dans l'histoire proprement dite. Même si certains aujourd'hui ne veulent pas regarder ça comme historique, je crois qu'on doit le regarder comme historique. Abraham, c'est à partir d'Abraham que le peuple d'Israël commence. Alors, il faut comprendre l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Alors, si Abraham est le père de la foi, à travers Abraham, nous allons découvrir le mystère de la foi. Et ça, c'est très, très beau. Et c'est très prédicable. Et c'est même très important pour nous. Quand on doit prêcher sur la foi, prêchons sur Abraham. Et prêchons sur Marie. Mettons le parallèle, puisque Abraham nous aide à comprendre ce que c'est que la foi. Abraham, vocation tardive, 75 ans. Pas si mal, hein? Dieu commence avec Abraham. Il déloge Abraham. Alors c'est très beau, vous voyez, parce qu'à 75 ans, vous êtes quand même censé d'avoir un peu de prudence. À 20 ans, pas encore.
À 25 ans, difficile. À 30 ans, ça commence. Et à 75 ans, on a le prudent. C'est même ce qu'on a le mieux. C'est la prudence. Hein? Alors, c'est parce que c'est ça qui grandit, 75 ans. Alors, c'est magnifique pour faire comprendre la différence entre la prudence et la foi. Et toute l'histoire d'Abraham est là pour nous faire comprendre comment la foi donne une nouvelle vie à ce vieux tronc qui est Abraham. Ce vieux tronc stérile. Hein, c'est extraordinaire, parce que tout y est, ce vieux tronc stérile. Ce foyer, ça commence par un ménage. Hein. Vous voyez bien la reprise. Hein. Un ménage spécial, parce que Sarah, ça ne devait pas être très commode. Ça, je crois. Abraham non plus, mais Sarah, je crois qu'on peut le dire. Ça. Alors, on voit bien ce foyer très particulier. Abraham est sûrement un homme cultivé, la grande culture d'Our, de la grande culture de Mésopotamie, qui pour l'époque est la grande culture. Et alors qu'est-ce que fait Dieu? Dieu lui demande de sortir de toute la culture d'Our pour aller vers une terre promise. Alors là on comprend ce point de départ de la foi. La foi réclame d'Abraham une obéissance d'enfant, une obéissance de tout petit. Vous voyez comme c'est difficile à comprendre hein, quand il s'agit d'un homme de 75 ans. Il fallait que la foi dans Abraham soit tellement forte qu'Abraham n'hésite pas. Et on voit que cette foi va tout de suite exiger de lui sortir de son pays, sortir de sa culture, aller vers un pays qu'il ne connaît pas, le pays de Canaan. Alors je crois qu'on peut dire qu'avec Abraham, nous voyons comment la foi réclame un dépassement de la prudence. Vous voyez, on ne déracine pas les vieux arbres, hein, sauf aujourd'hui. Mais on prend beaucoup de terre. Je sais très bien qu'en déracinant Abraham, on demande à Abraham d'emporter Sarah. On demande à Abraham de prendre son esclave hein, aussi, donc Agar, d'emporter Lot avec lui, et puis tout cheptel, donc beaucoup de terre. Tous ces animaux... Ça a dû être un départ assez extraordinaire de voir ça. Abraham qui s'en va avec Sarah, avec Agar, avec Lot. Il s'en va vers la terre promise. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit le dépassement de la foi par rapport à la prudence et une foi qui tout de suite s'incarne dans une obéissance. C'est ça qui est merveilleux, c'est le réalisme de la foi. La foi ne va pas convertir les mœurs d'Abraham. Abraham garde ses mœurs. Ça, c'est très très net. Et ceci nous est montré d'une façon très nette quand on voit la manière dont Abraham va être en Égypte. Donc il y a la vocation d'Abraham. La vocation montre le dépassement. Parce que je crois qu'il faut saisir à travers tous les épisodes d'Abraham le mystère de la foi. Et d'une façon très descriptive, comprendre ce que représente ce dépassement de la foi. Donc, le dépassement de la prudence et l'obéissance. C'est la foi obéissance, ce n'est pas la foi contemplative. Abraham est un contemplatif à la fin de sa vie, mais pas du tout au moment de sa vocation. Ça, c'est un homme qui réussit bien, je crois qu'il était intelligent, il réussissait bien, il avait un beau cheptel. Il avait de grandes amitiés avec Lot. Ensemble, ils formaient quelque chose de fort. La foi ne va pas convertir entièrement le cœur d'Abraham. Et il y a la petite histoire d'Abraham en Égypte, chapitre 13. Vous savez bien. Abraham sait que Lot, sait que Sarah est encore belle.
Alors c'est très dangereux d'aller avec une belle femme en Égypte, parce que le pharaon, ou ceux qui sont les amis du pharaon, désireront offrir au pharaon cette femme. Pour pouvoir l'offrir, il faut qu'elle soit veuve. Donc on va tuer Abraham. Et Abraham, pour ne pas être tué, fait un petit mensonge de complicité avec Sarah. Tu diras que tu es ma femme. Comme ça, on va me laisser tranquille. Tu diras que tu es ma sœur. Tu diras que tu es ma sœur. Comme ça, on va me laisser tranquille. Mais le mensonge. Et il a la foi. C'est extraordinaire, ce mensonge. La foi va cohabiter avec cet homme qui a des mœurs assez particulières. Non seulement il a deux femmes, du moins, il en a une, et puis son esclave. C'est son esclave, c'est pas sa seconde femme, mais elle va servir pour avoir une postérité. Et ça, Dieu l'agrée. C'est très extraordinaire. Donc la foi n'amène pas immédiatement une purification des mœurs. Pas du tout. C'est deux choses différentes. Les vertus théologales et les vertus morales. Les vertus théologales, ça vient d'en haut. Les vertus morales, ça s'acquiert. Nous acquérons nos vertus morales. Et on va voir, hein, Abraham sera à l'épreuve progressivement. Mais alors, ce petit épisode est très, très instructif là-dessus. Nous voyons ensuite comment... Évidemment, Dieu va corriger Abraham, hein, c'est sûr. Il va le corriger, il va être sain et sauf, mais Dieu va le corriger. Yahvé dit à Abraham, lève les yeux. Alors on voit l'alliance avec Abraham qui se fait de plus en plus. Hein. L'alliance qui se fait. On voit la séparation avec Lot pour montrer aussi que la foi ne fait pas nécessairement des relations de charité fraternelle qui sont parfaites. Entre Abraham et Lot, il y a une rivalité. Alors il vaut mieux se séparer pour éviter les rivalités. Il vaut mieux. C'est une charité fraternelle qui n'est pas encore parfaite. La charité fraternelle parfaite demanderait qu'on se supporte au-delà. Mais quand elle n'est pas parfaite, il vaut mieux se séparer. En fait, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire d'Abraham. Nous voyons ensuite la campagne pour montrer comment Abraham est quelqu'un de merveilleux. La grandeur d'Abraham dans la lutte. La force d'Abraham dans la lutte. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Melchisédek. C'est après sa victoire qu'il rencontre Melchisédek. Alors là, c'est pour montrer le dépassement d'Abraham par Melchisédek. Et ça, c'est très grand. Melchisédek, le prêtre du Très-Haut. La foi permet de reconnaître Melchisédek. La foi d'Abraham permet de reconnaître Melchisédek. Et ceci, c'est pour nous faire comprendre que la vraie foi aurait dû permettre de reconnaître le Christ. Parce qu'Abraham préfigure. Et il montre, puisque en Abraham, tout le peuple d'Israël reconnaît Melchisédek. En Abraham. In sinu Abraham. Dans le sein d'Abraham. Tout le peuple d'Israël reconnaît Melchisédek. Tout le peuple d'Israël donne la dîme à Melchisédek. Tout le peuple d'Israël laisse passer devant le prêtre du Très-Haut. C'est un passage très très beau et très grand. Avec le chapitre 15, puisque nous étions au chapitre 16, au chapitre 15, nous retrouvons encore une alliance. Parce que les alliances se succèdent. C'est toujours les alliances dans la foi, mais une foi qui justifie. Hein. Si la foi ne purifie pas les vertus d'Abraham, la foi justifie quand même, c'est-à-dire fait d'Abraham un ami de Dieu. Alors nous avons au chapitre 15 quelque chose de très très grand au point de vue de l'alliance. C'est une alliance qui se fait à travers un sacrifice. Préfiguration du mystère de la croix. Et c'est une merveilleuse préfiguration du mystère de la croix, ce chapitre 15. Si on le peut, on reprendra cela, parce que c'est quand même quelque chose de tellement grand. Et nous sommes arrivés au chapitre 16, la foi et la fécondité. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Ça, c'est montrer cette punition de Dieu dans la perspective de l'ancienne alliance. La stérilité est toujours considérée comme une punition, conséquence du péché. Alors que la fécondité est regardée comme une bénédiction de Dieu. Or, elle avait une esclave égyptienne. Alors, c'est aussi très important, hein, de voir toujours les relations avec l'Égypte. Nous en avons vu déjà une première, la frousse intense d'Abraham qui doit traverser l'Égypte. Il a peur, alors il prend une ruse. Il est plus rusé que les Égyptiens. Et ici, on voit comment l'Égypte est présente dans le foyer d'Abraham. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Or, elle avait une esclave égyptienne qui s'appelait Agar. Saraï dit à Abraham. Remarquez bien, c'est le conseil de Saraï. Vois, Yahvé m'a empêché d'enfanter. Yahvé. Directement relié à Dieu. Aujourd'hui, on dirait, hein, biologiquement, on ne peut pas avoir d'enfant. C'est intéressant toujours de regarder le regard de la foi qui est présente. Hein. Parce que le mystère de la fécondité, c'est une alliance avec Dieu. C'est la première alliance, c'est l'alliance fondamentale. Hein. Le mystère de la fécondité. J'ai enfanté un fils de par Yahvé. Voilà ce que dit Ève. Elle ne dit pas j'ai enfanté un fils avec Adam. Non, ça, ce n'est pas la peine d'être révélé. Tandis que j'ai enfanté un fils de par Yahvé, oui, pour nous montrer cette alliance familiale de la fécondité qui est reliée directement avec Dieu. Vois, Yahvé m'a empêché d'enfanter. Va donc vers mon esclave. Peut-être par elle aurai-je un enfant. Aurai-je un enfant. Ouais. Voilà ce qu'elle dit quand elle est paisible, quand elle est sous l'influence de Dieu. J'aurai un enfant. Pourquoi ? Parce que Abraham, c'est son homme. Abraham, c'est le père. Et donc, si Abraham a un enfant, même de l'esclave, ça demeure son fils. C'est très, très important de comprendre ça. Parce que ça, c'est vraiment Saraï qui parle sous la mouvance de l'Esprit Saint. Vois, Yahvé m'a empêché d'enfanter. Va donc vers mon esclave. Peut-être par elle aurai-je un enfant. Abraham écouta l'appel de Saraï. Et 10 ans après qu'Abraham s'était établi au pays de Canaan, Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, son esclave, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. C'est curieux, hein? Il ne faut pas prêcher ça comme l'idéal de la famille, mais vous voyez que c'est quand même... C'est toujours, hein, important, hein, c'est très important. C'est la sainte famille qui reprendra tout. Mais j'ai déjà, dans l'ancienne alliance, quelque chose de très important au point de vue de la famille. Mais les principes ne vont pas jusqu'au bout. Je suis dans l'ordre de la disposition, surtout au niveau moral. Je suis dans l'ordre de la disposition. On ne peut pas saisir les principes, parce que les principes ne sont pas donnés immédiatement. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux l'orgueil de la fécondité, la gloire de la fécondité. Elle va mépriser sa maîtresse. Or, Dieu veut qu'elle la respecte. Saraï dit à Abraham que l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis mon esclave dans ton sein. Et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux.
que Yahvé juge entre moi et toi.
Scène de famille.
Et scène de famille qui va loin. C'est dramatique. Parce que Sarai ne supporte plus que son esclave la méprise. On voit très bien ce qu'elle pouvait dire. Hein. Je suis bien plus proche d'Abraham. C'est moi qui porte la vie, qui prolonge la vie d'Abraham. Toi, rien du tout. Stérile. Abraham dit à Sarai, voici ton esclave entre tes mains. Fais-lui ce que bon te semble, ce que bon te semblera. Donc Abraham
renvoie cette petite scène de ménage, débrouillez-vous entre vous.
Moi, non. Alors Sarai l'humilia et Agar s'enfuit loin d'elle. C'est vengé, tout simplement. Et Sarai s'en va. L'ange de Yahvé la rencontra près d'une source d'eau dans le désert. La source qui est sur le chemin de cour. Il dit, Agar, esclave de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle dit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de Yahvé lui dit, retourne chez ta maîtresse, humilie-toi sous sa main, sous ses mains. Mais c'est pas commode de comprendre ces choses-là d'un point de vue théologique. Hein. C'est pourtant la parole révélée. Il y a là quelque chose de très grand et très important à saisir.